Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Nous avons une question aujourd'hui pour lui. Cher Philippe, le président Sarkozy a confié une recherche sur la mesurabilité du bonheur à un grand économiste, puisque prix Nobel d'économie, le professeur Stiglitz. Est-ce que l'on peut mesurer le bonheur humain ?
Il était temps que ce genre de réflexion émerge. Depuis assez longtemps, nous savions que les relations économiques entre les États, entre les nations, étaient déséquilibrées. Il fallait enfin que quelqu'un adresse un message courageux. Stiglitz vient de le faire. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en effet d'établir des critères économiques qui respectent non seulement la production économique, mais en même temps respectent les personnes qui produisent économiquement dans chacun des pays, précisément. Alors, est-ce qu'on peut mesurer le bonheur humain ? Je ne sais pas si, d'ailleurs, Stiglitz veut mesurer le bonheur humain, mais en toute hypothèse, ce qu'il veut faire, c'est que dans les relations économiques, on tienne compte d'un certain nombre de paramètres qui concernent la vie des personnes, qui concernent l'environnement des personnes. Il ne serait absolument pas normal, il serait indigne que des économies locales dans certains pays qui deviennent prospères en payant le prix du sacrifice de générations.
Alors, quels sont les critères qui ont été retenus pour évaluer ce bonheur ?
Alors, il y a plusieurs critères. Il y a d'abord le critère de la santé, il y a le critère de l'environnement, le critère de la qualité du travail. Alors, je reviens simplement sur quelques-uns. Par exemple, sur la santé. Je peux, si vous voulez bien, vous raconter une petite histoire. Il y a une quinzaine d'années, je suis allé dans un grand pays d'Extrême-Orient avec un groupe d'études universitaires français. Et nous avons été reçus, entre autres, officiellement, par le directeur d'une industrie textile. Il nous a fait visiter, évidemment, au mieux l'affaire, sauf que nous avions notre propre traducteur et qui connaissait bien le milieu. Et nous avons appris cette chose absolument incroyable, c'est que cette industrie textile vit parce qu'il recrute des jeunes filles de 14 jusqu'à 28 ans qui donnent le meilleur de leur jeunesse à cette entreprise. Et savez-vous ce qui se passe au bout de 10 ans ? Ces filles qui travaillent deviennent aveugles. À l'âge de 27-28 ans, elles sont envoyées dans leur campagne parce qu'elles sont devenues non productives, mais elles sont devenues aveugles. Autrement dit, lorsque nous, en Occident, nous achetons des produits qui viennent de ces pays-là, nous participons du sacrifice physique de ces jeunes filles. Nous participons de la cécité programmée de ces jeunes femmes.
Philippe, je vais peut-être élargir le débat à quelque chose de tout à fait différent. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là, tout simplement, d'un degré de développement économique différent ? Je m'explique. Au cours du 19e siècle, les dentelières dans les provinces françaises s'abîmaient aussi les yeux sur leurs dentelles et en général aussi, à une trentaine d'années, elles étaient aveugles. Et néanmoins, on achetait ces belles dentelles, on les collectionnait, aujourd'hui encore on les collectionne. Et il y a des générations de femmes qui ont perdu la vue en créant ces merveilles. Est-ce que tout simplement, on n'est pas dans un état de développement économique différent, à des stades différents ? Et est-ce qu'au fond, ces horreurs que nous évoquons ne sont pas les débuts d'un développement économique avec ces balbutiements, ces tragédies ? Et il faut au fond avoir accumulé certaines richesses pour ensuite avoir la notion des droits de l'homme, la notion de la mesurabilité du bonheur. Est-ce que c'est pas au fond déjà un certain luxe ?
Il faut éviter, me semble-t-il, de faire une relecture cynique de l'histoire, considérant que d'un mal peut sortir un bien, il faut passer par le tragique pour que le meilleur subsiste. Il me semble que si les dentelières n'existent plus, c'est parce que des voix se sont élevées pour dénoncer précisément ces pratiques. Si dans ces pays que je viens d'évoquer, aucune voix ne s'élève pour dénoncer ces pratiques, il en sera toujours ainsi. Autrement dit, il faut des contrefeux, il faut des révélateurs du tragique pour que les choses changent, mais par immanence, je ne vous dis pas. Les choses ne changent pas d'elles-mêmes, car il y a des instruments de profit qui sont ici et qui ne font aucun cas de la personne. Il y a aussi un second élément de réflexion qui s'impose suite à votre remarque, c'est que nous sommes dans un continent pour lequel la personne est un absolu, compte comme tel. Nous sommes héritiers de ce point de vue de la tradition judéo-chrétienne, mais aussi pour partie de la tradition grecque, qui a aussi donné des gages quant à la singularité humaine. Mais vous avez des continents entiers pour lesquels la personne n'est jamais un absolu, est toujours relative au groupe, relative au progrès, relative à la perspective. Et donc, de mettre en situation de comparaison égale, si vous voulez, ce qui peut se passer dans ce pays d'Extrême-Orient que je viens de citer et ce qui a pu se passer au XIXe siècle, pourrait manquer le fait que la conception de la personne n'est pas la même.
Néanmoins, quand on envoyait des enfants de 8 ans dans les mines, on était exactement dans la Chine d'aujourd'hui et on aurait pu à l'époque aussi avoir une conscience de l'aliénation que ça représentait.
Il a fallu que des voix s'élèvent. Et de toutes sortes, n'est-ce pas? Pour le coup, il ne s'agit pas qu'une partie ou une religion tire la couverture à soi, la couverture idéologique. Il a fallu des protestations de différentes familles de pensée pour que ces choses cessent. Et de ce point de vue, nous n'avons de leçons à donner à personne. Il ne s'agit pas que l'Occident s'élève en donneur de leçons. Mais au moins, les leçons que nous-mêmes nous avons tirées de notre propre histoire doivent aussi donner des critères pour apprécier les situations des autres, n'est-ce pas ? Il ne s'agit ni de se désoler à bon compte, ni de se consoler à bon compte, mais de mettre le doigt sur le fait qu'il y a de la souffrance et que nous participons par nos choix économiques à cette souffrance.
Alors revenons à ce document de M. Stiglitz. Est-ce que c'est véritablement un document historique, comme l'a présenté la presse ?
Alors, l'affaire était dans le temps. Il y avait une sorte de prédisposition à l'accueil de ce document. Depuis assez longtemps, tout le monde s'inquiétait de ce que l'absence de régulation mondiale crée des déséquilibres économiques. Et nous ne pouvons pas, de fait, survivre très longtemps si dans certains pays, même en Europe d'ailleurs, les niveaux de vie sont de 4 à 5 fois inférieurs à d'autres pays. Inévitablement, la logique est inscrite. Nous allons vers une désindustrialisation de certains pays. Nous allons transporter nos propres industries dans les pays les moins chers, là où le prix du travail est le moins élevé, en conséquence de quoi nous sommes en train de nous autodétruire. Il y a une espèce de logique inévitable que d'aucuns avaient aperçu il y a très longtemps. Le rapport Stiglitz est historique, je crois qu'on peut le dire, en ce sens précis qu'il systématise, si vous voulez, la réflexion et fait des propositions. Stiglitz, qui est prix Nobel, avait quelques titres, si vous voulez, avantageux pour promouvoir une telle argumentaire. Alors, qu'est-ce qui peut être dit historique ? C'est que si le rapport Stiglitz est entendu, nous pourrions faire un grand pas dans la mise en place d'un système de régulation mondiale des marchés. Hein. Actuellement, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, garantit pas les équilibres du marché. Au fond, qu'est-ce qui est en jeu dans ce rapport ? C'est la mise en place d'une nouvelle critériologie dans les rapports internationaux et dans le rapport éthique. Le problème résiduel, c'est que ce rapport n'est pas historique en ce sens qu'il ne peut rien promouvoir si les États ne sont pas parties prenantes, n'est-ce pas ? Autrement dit, vous avez beau faire le rapport le plus intelligent qui soit, si les États, si les forces morales des nations ne sont pas engagées, il ne se passera rien. Donc le rapport comme tel ne va pas susciter une révolution, il ne sera révolutionnaire que si sa réception est engagée. Alors on voit très bien que certains pays occidentaux l'entendent, certaines forces morales le soutiennent, mais encore une fois, tant que des grands pays n'auront pas participé à la réception de ce grand texte, il ne passera rien.
Mais confier à des spécialistes de l'économie qui font l'analyse du bonheur humain, est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu court ? Est-ce qu'on peut vraiment quantifier le bonheur en se basant uniquement sur des arguments économiques ? Ça nous paraît quand même un petit peu court, un petit peu léger.
Alors, vous posez une question qui m'amène à un propos que je voulais tenir d'emblée suite à votre première question, c'est la distinction des ordres, si vous voulez, de savoir. L'économie est trop sérieuse pour être laissée aux seuls techniciens économistes, n'est-ce pas ? D'ailleurs, nous voyons bien, n'est-ce pas ? Nous avons une idéologie rampante qui aujourd'hui d'ailleurs atteint son point de rupture, à savoir que l'économie produit ses propres régulations d'elle-même. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de providence économique à l'interne de l'économie. Ça ne fonctionne pas. Alors, le technicien économique peut mettre en relief des systèmes de fonctionnement, des mécanismes, mais ce n'est pas lui qui, en tant que tel, peut promouvoir un rapport différencié où on fait intervenir des éléments de santé, etc., de bonheur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? De quoi avons-nous besoin ? Eh bien, d'une philosophie morale, n'est-ce pas ? Et c'est la philosophie morale qui dit « non, ça ne peut pas convenir », n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'une philosophie morale ? Pourquoi une philosophie morale intervient-elle ? Elle intervient parce qu'elle met le doigt sur, précisément, l'exigence d'une prise en compte des personnes et que l'exigence de prise en compte de ces personnes va servir l'équilibre des rapports entre nations et États. Autrement dit, ce qui me frappe dans ce rapport, si vous voulez, c'est que Stiglitz est économiste, mais c'est aussi un humaniste, n'est-ce pas ? Donc il intervient sur les deux registres qui s'articulent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les lois économiques ne sont pas en difficulté lorsque l'on met en avant les lois humaines. Et précisément, le rapport Stiglitz montre qu'un peu plus d'humanisme ne va pas gêner l'économie. Mais il faut que cet humanisme devienne universel. Et c'est le problème, si vous voulez que nous revenons à ce problème essentiel, c'est que la logique d'un humanisme est toujours universelle. Si l'on veut que l'économie, dans la mesure où nous pensons la mondialisation économique, n'est-ce pas, il faut précisément que l'humanisme devienne universel. Alors là, on entre dans un autre débat qui est celui de savoir si l'humanisme est simplement lié à l'Occident, vous comprenez, la question de l'excision, ça ne nous regarde pas, autrement dit un relativisme total, n'est-ce pas ? Or, l'humanisme est universel ou n'est pas ? Je suis très frappé de voir qu'il y a actuellement des jeunes femmes musulmanes, par exemple, qui demandent à l'Occident de bien vouloir faire respecter les droits de l'homme dans l'universalité des continents, de lutter contre une régionalisation même des droits de l'homme. Je suis très frappé de voir que cet écho ne vient pas de jeunes occidentaux, mais parfois de jeunes venus de pays où précisément la femme est persécutée, menacée continuellement. Et je suis très frappé qu'on demande à l'Occident, mais soyez universel comme vous l'êtes, n'est-ce pas ? Donc je pense que ce rapport Stiglitz joue, si vous voulez, de façon très intelligente, dans une articulation entre des lois économiques, des lois de mécanismes économiques, et en même temps les exigences d'universalité humaniste, et ce rapport montre que c'est possible.
Alors là, on est très loin d'une analyse économique du bonheur, on est très loin des chiffres, on est très loin des produits, on ne produit pas le bonheur comme on produit des objets d'usage, on est dans le domaine de la réflexion, de la philosophie, de l'éducation, on est dans le domaine, je dirais, du cœur, de l'intelligence, on est dans un tout autre domaine.
Alors, il y a une vision romantique du bonheur qui consiste à dire, vous comprenez, l'argent ne fait pas le bonheur, les conditions matérielles ne font pas le bonheur, etc. Le problème, c'est que le bonheur ne peut pas être assuré si les conditions minimales de vie matérielle ne sont pas assurées. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de bonheur éthéré. Le bonheur est toujours incarné. Le bonheur se joue toujours dans la chair des hommes aussi. Il faut d'abord manger, boire, vivre, dormir, avoir des conditions minimales pour que le bonheur puisse émerger. Alors, je ne suis pas sûr que l'économie puisse donner des critériologies de bonheur, mais elle peut définir des conditions à partir duquel le bonheur peut avoir lieu, ou du moins le bonheur passager. Le mot bonheur, d'ailleurs, est un mot fort, n'est-ce pas ? Parlons plutôt de joie passagère, parlons de sérénité. Il peut y avoir des bonheurs dans une vie. Il y a des bonheurs, mais une vie rarement une vie de bonheur pleine, on dirait. Mais nous avons des moments de bonheur qui nous laissent toujours de l'espoir, que la vie peut être vécue comme telle. Et ces moments de fulgurance de bonheur nous donnent envie de vivre et d'attendre le bonheur, n'est-ce pas ? Creuse en quelque sorte l'attente du bonheur. Alors, aucun économiste ne saura mesurer le bonheur, mais il pourra à tout le moins définir les conditions matérielles, économiques, à partir desquelles le bonheur peut avoir lieu, ce qui n'est pas rien.
Alors, c'était la vision du doyen Philippe Capel-Dumont sur la mesurabilité du bonheur. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine réflexion, pour un prochain partage de réflexion, la semaine prochaine, dans De Nouveau, Entre-temps, Entre-nous, un partage de réflexion. À dimanche prochain.